Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. L'Europe vacille en cette fin d'année. Trois grandes démocraties sont ébranlées. La France est en éruption, le Royaume-Uni dans les convulsions du Brexit et l'Italie dans la tentation de l'homme fort. Au centre-est du continent, d'autres pays membres de l'Union européenne développent un système illibéral bénéficiant de ces dispositifs sans en respecter les valeurs. L'extrême droite progresse en Allemagne, ressurgit en Espagne et le modèle scandinave connaît des ratés. Le centre de gravité de l'Union est affaibli, on vient de le vérifier lors du dernier Conseil européen qui s'est terminé hier vendredi à Bruxelles. Angela Merkel est en train de passer la main et la crédibilité d'un Emmanuel Macron qui se voulait le champion d'une refondation de l'Europe est abîmée. À 5 mois des élections européennes, les priorités nationales et les solutions de court terme ont partout le dessus. Que se passe-t-il donc sur notre continent? Quels sont les ferments à l'œuvre pour qu'avec quelques variantes, les institutions soient ainsi malmenées, les corps intermédiaires contestés, les équilibres politiques bousculés? Crise de représentativité, crise d'identité, aspiration à plus d'autorité d'un côté, envie de démocratie directe de l'autre, avec Facebook pour juge de paix. Les Européens bénéficient pourtant des libertés que leur accorde le plus vaste espace démocratique du monde. Ils absorbent 50% des dépenses sociales de la planète. Leur niveau de vie est globalement l'un des plus élevés, mais les inégalités se creusent et les signaux d'alerte se multiplient. Nos démocraties libérales sont en crise. Quelle cause, quel remède éventuellement? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Marc Lazare, bonjour. Vous bonjour. Êtes professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po et président de l'école de gouvernement de l'Université Louis à Rome. Nous avons le plaisir d'accueillir Robert Franck. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire européenne et des relations internationales, et aussi Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Par téléphone depuis Bruxelles, et je l'en remercie, Luc Van Middelaar, qui est philosophe politique, historien, professeur à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, et par téléphone un peu plus tard dans cette émission, Ulrike Gero, qui est une politologue allemande, professeur à l'Université Danube-Krems en Autriche. Marc Lazare, on a vu la façon dont s'est déroulé à Bruxelles le traditionnel conseil de fin d'année, réunissant les chefs d'État et de gouvernement. Évidemment, un conseil marqué en quelque sorte par le changement radical d'ambiance qui frappe d'abord la France, mais aussi d'autres partenaires. Emmanuel Macron, on le sait, a décrété un état d'urgence économique et sociale. Est-ce que vous pensez que c'est la fin d'un modèle français qui, pendant des années, et malgré une débauche budgétaire que nous ont souvent reproché nos partenaires, mais néanmoins, il y avait une sorte de modèle français?
Oui, peut-être. Je crois qu'effectivement, en tout cas, la France est confrontée, comme beaucoup d'autres pays européens, à plusieurs défis. Le premier, c'est effectivement cette perception de plus en plus négative d'une partie de la population par rapport aux politiques économiques de l'Union européenne, qui est considérée comme ayant provoqué, tort ou à raison, mais en tout cas, a provoqué du chômage, des inégalités croissantes, la diffusion de la pauvreté. Et je crois qu'il y a une immense interrogation, effectivement, par rapport à l'Union européenne. Même si, quand on regarde les enquêtes de manière très précise, on voit que pour les pays membres de la zone euro, il y a d'un côté, dans l'opinion publique française, comme la plupart des pays européens, une critique de l'Union européenne, mais la volonté de rester dans la zone euro, ce qui fait que on pourrait dire qu'il y a une forme ici de potentiel de reconstruire, une reconstruction de quelque chose. Il y a une deuxième point un, c'est la crise monumentale de confiance par rapport aux institutions, à la classe politique. Le Cevipof à Sciences Po, depuis 2009, fait un baromètre de la confiance politique qui est enregistré depuis donc 10 ans, 9 ans exactement, systématiquement, chaque année, le creusement de cette crise de défiance à l'égard des institutions. Et je crois que ça pose un problème à la France qui pensait être un peu protégée par ses institutions, notamment si je fais la comparaison avec l'Italie. Très souvent, du côté italien, on dit « nous sommes en crise, mais si on avait les institutions de la Ve République et si on avait le mode de scrutin, on s'en sortirait ». On voit qu'on a des institutions qui sont fortes, on voit qu'on a un mode de scrutin efficace et qui ne dissipe pas le profond malaise politique qui existe en France. Et de ce point de vue-là, moi je ne suis pas un partisan, par exemple, de la Ve République, loin de là, mais je pense qu'il y a un grand besoin de rénovation de nos institutions. Parce que vous avez, dans votre introduction, dit qu'il y avait cette tentation de renoncer à la démocratie. Dans le livre de Yascha Mounk qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie », il utilise de multiples enquêtes qui montrent que près d'un tiers des Européens aujourd'hui disent « pourquoi pas un régime autoritaire ?» Moi, j'ai à peu près les mêmes pourcentages en Italie. Mais je crois qu'il y a d'un côté cette aspiration à l'homme fort, à plus d'autorité, et en même temps une aspiration à plus de transparence démocratique et de plus d'intervention et d'activité démocratique, de participation démocratique. Et puis le troisième grand malaise qui traverse l'Europe, c'est une interrogation de type culturel, pour ne pas dire identitaire, liée entre autres à la question de l'immigration, à la question des migrants, au terrorisme aussi, à la perception de la religion musulmane et à toute une interrogation sur qu'est-ce que veut dire faire nation dans chacun des pays et encore plus, qu'est-ce que c'est que faire Europe? Et si les pro-européens se contentent dans la perspective des élections européennes d'avoir comme discours comme elle est belle notre Europe et haro contre les populistes, je crois qu'ils n'arriveront pas à convaincre. C'est le moment ou jamais d'essayer de repenser un projet européen.
Luc Van Middelaar, merci d'être avec nous par téléphone de Bruxelles. Vous venez de publier chez Gallimard un ouvrage qui s'intitule « Quand l'Europe improvise » où vous rappelez les soubresauts de la construction européenne. Mais soyons plus concrets et plus actuels, si j'ose dire. Vu de Bruxelles, est-ce que Emmanuel Macron paraît affaibli? C'est la fin du prodige avec ce dérapage annoncé et assumé des finances publiques à partir du moment où le président de la République a décrété un certain nombre de mesures pour calmer la colère et aussi les angoisses d'une partie de la population.
Ben, il est évident que toute l'Europe a suivi de près les événements en France et que tous les pères d'Emmanuel Macron, les autres présidents et premiers ministres de l'Union européenne, qu'il a donc revu hier et avant-hier à Bruxelles, ont suivi et vu les images de Paris, etc. Et je pense qu'il y a une inquiétude à Bruxelles ou à Berlin par rapport à la colère qui s'est exprimée en France et qu'est-ce que ça signifie pour l'autorité donc du président et aussi du coup de l'État. Emmanuel Macron, il est bien sûr arrivé avec un grand capital politique en arrivant sur la scène européenne il y a un an et demi, et que bien sûr cette bienveillance, elle est toujours là, mais il doit d'abord montrer sur le plan français, mais aussi sur le plan européen, qu'il effectue une reprise de la situation en France. C'est vraiment un préalable à toute initiative européenne. Et ceci à un moment où, en même temps, et Marc Lazare vient de le dire, l'Europe en a besoin de telles initiatives.
Le Conseil européen devait se pencher sur un plan de renforcement de la zone euro. Il est évident que dans le climat actuel, avec en particulier les dirigeants italiens qui ricanent sur le thème, on va bien voir si les règles sont les mêmes pour tous. Est-ce que véritablement la Commission va se montrer aussi exigeante vis-à-vis de la France qui annonce un déficit probablement de 3,4%, donc au-delà des fameux 3% imposés par les règles de Maastricht? Vous avez été, vous, au sommet de la construction communautaire pendant plusieurs années, aux côtés d'Herman Van Rompuy, quand ce dernier était président du Conseil européen. Est-ce que vous pensez que cette orthodoxie budgétaire européenne, au moment où plusieurs États importants doivent faire face avec des mesures de courte durée, est-ce que cette orthodoxie européenne sera maintenue, et maintenue en particulier par l'Allemagne?
Je ne pense pas que cette orthodoxie ou financière plutôt sera maintenue à tout prix. Je pense que les uns et les autres voient bien le contexte politique et je pense qu'à cet égard, il y a aussi une différence d'accueil entre l'Italie et la France. Pour l'Italie, je pense qu'on a considéré que le gouvernement italien a fait des promesses électorales intenables ou bien peut-être en partie sur le dos des contribuables des autres pays membres de la zone euro, tandis que maintenant pour la France, les collègues d'Emmanuel Macron ont vu, ben voilà, il y a un vrai problème en France qui est urgent et je pense que il y aura une marge politique pour ça. Bon, après, il faut voir comment ils jugent. Mais je pense que là, il y a une marge d'appréciation politique qui sera prise en compte, étant donné la situation et étant donné aussi les élections européennes. Pour revenir peut-être aussi aux questions de fond que vous avez posées, ben, qu'est-ce qui traverse nos démocraties européennes? Parce que les problèmes, les inquiétudes, le désenchantement qui s'exprime en France ou au Royaume-Uni avec le Brexit, ou en Italie lors des élections précédentes, je pense qu'il y a quand même énormément de facteurs en commun qui n'ont pas uniquement lié, loin de là, avec l'Union européenne. C'est, pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment un facteur secondaire, mais qui exprime des phénomènes de société comparables, que ce soit l'inégalité sociale dont vous avez parlé, la justice fiscale, des clivages territoriaux, bien sûr, qu'on a discuté depuis un mois en France, mais on voit les mêmes phénomènes aussi au Royaume-Uni quand on regarde le résultat du scrutin pour le Brexit, les mêmes clivages entre, disons, des centres urbains et plus en campagne. Et donc là, il y a des phénomènes d'ordre sociologique qui sont aussi une réponse vraiment face au grand mouvement de la mondialisation, etc. Et puis, là-dessus, il y a un changement de système politique qui ne suit plus. Hein, et où il y a, je voudrais juste citer deux phénomènes. D'une part, et c'est évident, l'effet des réseaux sociaux, et en ce qu'ils favorisent les points de vue extrêmes et simplistes, d'ailleurs les deux côtés du débat. Et ça a un effet sur la capacité de nos démocraties parlementaires, qui sont quand même des systèmes parlementés, ça veut dire parler, discuter, argumenter, pour trouver un accord ensemble. Et ça, c'est une fonction qui est un petit peu minée. Et on constate que nos démocraties ne savent plus faire face à leurs contradictions internes, je dirais. Ils ne savent plus trancher les très grandes questions. Et là, l'exemple le plus clair aujourd'hui, c'est bien sûr le Royaume-Uni.
On va
le pays est quand même déchiré depuis 2 ans et demi sur cette question et ils n'arrivent pas à régler dans et par le Parlement, comme ils savent le faire depuis 3 siècles, cette question de l'appartenance à l'Europe. Et en France, il y a une même incapacité, si j'ose dire, à traiter une autre contradiction de votre système, qui est liée à la fois au désir d'avoir les meilleurs services publics du monde et avoir un niveau d'impôt adéquat pour les financer. Et là, c'est un autre exemple pour dire, voilà, les autorités publiques et politiques sont face à des choix à faire, mais ils n'arrivent plus à trancher et les débats polarisent.
Merci beaucoup Luc Van Middelaar d'avoir été avec nous. Jacques Rupnik, vous étiez, je crois, à Prague il y a quelques jours. Dans ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, où on voit se développer des systèmes politiques qui suivent les règles parlementaires, mais au bénéfice de dirigeants, de l'homme fort, dont évidemment le premier, ou en tout cas le plus caricatural, si j'ose dire, est le Hongrois, Viktor Orban.
Oui, certainement. Là, nous avons des institutions qui fonctionnent. La démocratie n'est pas remise en cause au plan, j'allais dire, de ces institutions de base. Mais c'est une démocratie majoritaire. Le parti qui gagne les élections, qui a la majorité au Parlement, considère que cela lui donne la possibilité de s'émanciper, de s'absoudre des contraintes constitutionnelles institutionnelle, européenne et autres. Et donc c'est une conception souverainiste de la démocratie contre l'état de droit. On démantèle l'état de droit, la séparation des pouvoirs, on s'attaque à la Cour constitutionnelle, on s'attaque aux juges indépendants, en Pologne comme en Hongrie, aux médias indépendants, et dans la dernière phase aussi aux organisations de la société civile. Donc il y a des lois concernant les organisations non gouvernementales qui ont été adoptées en Hongrie. Et maintenant, on arrive à la phase culturelle aussi, puisque l'université centre-européenne, donc vous avez une université, une institution académique, indépendante, etc., qui est
qui avait été financée au départ par Georges Soros,
fondée par
en
froid
d'origine, et qui, voilà, lui, a été la cible de
voilà,
une campagne
antisémite. Soros est devenu la bête noire du régime, ouais, parce qu'il incarnait justement la mondialisation, l'ouverture, évidemment la crise de migrants lui était quasiment attribuée, hein, les affiches à Budapest, on voyait Georges Soros au centre avec des tenailles et avec comme slogan « Nous allons démanteler la clôture que Viktor Orban venait de construire ». Donc c'est une crise dans la démocratie, mais c'est une crise à l'intérieur de la démocratie. Trop souvent on dit « Ah oui, mais ça c'est une dérive, c'est l'autoritarisme, c'est la dictature, etc. » Non, ça serait trop simple, j'allais dire, si on pouvait l'interpréter en ces termes-là. C'est, en gros, au nom d'une certaine idée antilibérale de la démocratie, ce qui est remis en question, c'est le libéralisme, la séparation des pouvoirs, d'abord au nom de la souveraineté du peuple. Et deuxième volet, l'idée que c'est la souveraineté de la nation qui doit être protégée face à l'invasion des migrants d'une part, face aux intrusions de Bruxelles d'autre part. Donc les deux volets, souveraineté populaire, souveraineté nationale, se rejoignent dans cette posture qui convient à un leader fort, qui peut dire « moi je vous protège à l'intérieur et à l'extérieur ». Et il y a ensuite le troisième élément, ça a été brièvement évoqué, il y a aussi le rejet du libéralisme sociétal. C'est-à-dire, là, vous avez tout ce qui concerne, en gros, les évolutions des 20 dernières années, qui concernent, ça va du droit à l'avortement, les mœurs, le mariage gay, jusqu'au multiculturalisme.
Ce qui est sidérant à Budapest, enfin, Orban veut tellement, comment dire, ce néologisme, rendre plus hongrois encore toute manifestation culturelle que Porgy and Bess a été chanté et joué par des blancs. Il ne pouvait pas y avoir des noirs. Non, mais c'est quand même sidérant, ça, Porgy and Bess en hongrois avec des blancs.
Ah ben voilà, Porgy and Bess en hongrois, mais c'est la musique qui compte. Donc là, vous avez, je crois, voilà, donc là, on renationalise tout. Il y a un discours sur le patriotisme économique aussi. En gros, il y a un nouveau discours qui s'est développé ces dernières années. L'Europe, depuis 89, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Europe occidentale? C'est une espèce de mainmise sur notre économie. Au nom de la privatisation, on a été racheté, en gros, je vais vite, par les grandes entreprises, les banques occidentales. Et cette Europe occidentale, par l'intermédiaire de l'Union européenne, maintenant nous impose, nous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Et Orban a eu cette formule en 2013, l'ère du colonialisme s'est terminée. Et il y a un discours maintenant, n'est-ce pas, qui considère l'Union européenne, ses intrusions et plus généralement la mainmise économique et politique de l'Occident sur ces pays comme une forme de néocolonialisme avec ou sans guillemets.
Mais les subventions européennes restent évidemment les bienvenues.
Les subventions sont absolument indispensables parce que c'est une justice, vu que ces peuples ont souffert et vu qu'il y a une solidarité européenne qui doit s'exprimer. Elle ne s'exprime pas dans la répartition des migrants, mais elle doit s'exprimer pour la redistribution des fonds structurels.
Robert Franck, vous êtes professeur émérite à Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire européenne et en particulier de la Grande-Bretagne. Jusqu'à quel point est-ce que vous reconnaissez dans l'analyse de nos amis les signaux qui, il y a 2 ans et demi, déclenchaient le vote Brexit et aussi les convulsions qu'on a analysées ici même samedi dernier, les convulsions, le psychodrame qui continue, puisque voilà, la Grande-Bretagne ne sait pas comment sortir de l'Union européenne et les Britanniques ne savent plus du tout où ils en sont non plus.
Il y a beaucoup de points communs et beaucoup de différences avec le continent. Alors, c'est vrai qu'on a là une situation inédite. Jamais les Britanniques n'ont été aussi décontenancés, jamais ils n'ont été aussi divisés. Il y a des clivages énormes. Il y a beaucoup de Britanniques qui me disent « mais nous ne reconnaissons pas notre pays hein. ». De même que des Américains me disent depuis l'élection de Trump « nous ne reconnaissons pas notre pays ». C'est assez rare en Grande-Bretagne d'avoir des propos du même genre. Alors, on retrouve pas mal de points communs, c'est-à-dire une crise sociale profonde, des exclus de la société, des inégalités croissantes comme sur le continent, du même coup une crise du politique, pas forcément aux institutions, les institutions sont assez fortes en Grande-Bretagne.
Enfin, mais elles sont fortes, mais néanmoins, oui. Ce système parlementaire admirable oui. n'arrive pas patine, à digérer patine, le référendum.
Parce que les contradictions sont énormes. Donc si vous voulez, il y a tous ces exclus, tout ce clivage entre le « eux » et le « nous hein, », c'est-à-dire cette contestation des partis, des institutions, mais aussi des médias, mais aussi des élites en général, avec bien sûr des populistes qui vont surfer là-dessus. Donc on a cette crise sociale qui monte, qui a effectivement, et surtout en Angleterre, vous n'avez pas, il y a pourtant une crise sociale en Écosse certainement, mais vous n'avez pas un populisme aussi profond. La contestation passe par ailleurs, par un nationalisme d'indépendance, mais qui n'est pas un nationalisme fermé et sectaire, qui est ouvert, puisque ces nationalistes écossais sont en même temps très européens. Ils ont voté à 62% contre le Brexit. Alors, la différence par rapport au continent est la suivante. Ceux qui émettent le discours populiste, y compris dans le Parti conservateur, comme des gens comme Boris Johnson, ce sont des gens qui sont, en principe, même s'ils sont populistes, même s'ils ont des accents xénophobes, attachés aux institutions. Jamais, je pense, ils avaient arrivé au pouvoir, ils ne voudraient mettre au pouvoir une démocratie illibérale. Même Boris Johnson, qui a des aspects de clown parfois, et parfois haineux et xénophobe, il est très attaché.
Mais qui représente une élite totalement mondialisée.
Alors justement, c'est là l'énorme différence. C'est que ces populistes, peut-être contrairement à leur électorat, ils sont souverainiste, mais mondialiste. Marine Le Pen, Viktor Orban, Kaczynski, le PIST, ils sont souverainistes, mais replis identitaires et non pas seulement non mondialistes, mais plutôt anti-mondialistes. Et là, on retrouve la spécificité britannique et toute son histoire, anglaise, je dirais même, c'est-à-dire la nostalgie de l'Empire, la nostalgie, disons, le monde est notre horizon, l'Europe est un horizon mesquin, et précisément, Theresa May, qui a pourtant fait voter pour le Remain, mais une fois devenue première ministre, en janvier 2017, fait un grand discours sur Global Britain. Hein, c'est-à-dire cette illusion, à mon avis, mais en tout cas cette nostalgie, effectivement, c'est le monde notre horizon, donc sortons de l'Europe et nous pourrons faire ça. Je ne suis pas sûr que l'électorat qui a voté pour le Brexit se suive, parce qu'il y a les mêmes problèmes que sur le continent. Mais là, on a une différence. Et du coup, le paradoxe, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le Parti populiste polonais ou hongrois ou au Rassemblement national français sont beaucoup plus extrémistes qu'un Boris Johnson. Mais jamais ils ne vont militer pour le Polexit ou pour le Longerexit. Et même Marine Le Pen, non seulement elle veut même pas sortir de l'Union Européenne, elle veut même pas sortir de l'euro depuis qu'elle a rompu avec Philippot. Ce qui est une contradiction. Ce qui peut peut-être donner des arguments pour les élections à venir. C'est, soyez logique et ayez le courage de commettre la même erreur que les Britanniques.
Mais cela veut dire, Marc Lazare, et on n'a pas encore parlé de l'Italie, mais ça veut bien dire cette idée que Viktor Orban, d'ailleurs, théorise pratiquement, et qui consiste à dire on ne veut plus de cette Europe-là, c'est ce que disent toujours les anti-européens qui qualifient les autres d'européistes. Il y a toujours d'ailleurs dans ce vocabulaire une nuance assez nauséabonde. Mais donc l'idée c'est une autre Europe est possible, voici notre modèle. Et en gros, c'est ce que Matteo Salvini, en Italie, incarne à sa manière.
Oui, c'est vrai. C'est Matteo Salvini et Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. C'est un de leurs points d'accord. Ils ont beaucoup de points de désaccord, mais c'est un de leurs points d'accord. La prééminence de la souveraineté nationale et la critique de l'Europe, mais officiellement parce qu'ils ne sont pas contre l'Europe, mais contre cette Europe-là. Et l'espoir qu'a caressé et c'est Matteo Salvini en particulier, c'est de trouver une alliance avec Viktor Orban contre Emmanuel Macron et Angela Merkel, en espérant qu'à l'issue des élections de mai prochain, il puisse y avoir une nouvelle orientation politique et économique de l'Europe. Alors, ça a changé. Ça a changé un peu pour différentes raisons. La première, c'est que le gouvernement italien avait fait un projet de budget qui a justement déclenché les foudres de la Commission européenne, qu'ils ont pendant un premier temps essayé d'engager l'épreuve de force avec la Commission européenne et que le gouvernement italien est en train de négocier aujourd'hui. Et il négocie avec la Commission européenne pour essayer de trouver un compromis. Et au moment où on parle, il y a plusieurs hypothèses et notamment une réduction justement des dépenses qui étaient prévues pour essayer de rester autour d'un déficit qu'ils essayent de négocier aux alentours de 2,04. Exactement.
Mais c'est là, évidemment, où la concomitance avec la crise française leur donne quelques arguments, ou en tout cas leur permet quelques ricanements.
Alors ça, c'est certain. Les ricanements et l'ironie de Salvini se déchaînent sur les réseaux sociaux. Il dit d'ailleurs que Macron n'est plus son adversaire parce qu'il est déjà politiquement mort. Et donc, il n'a plus besoin, dit-il, de s'adresser à Emmanuel Macron. D'autre part, justement, c'est un argument en disant puisque la France va obtenir des concessions, pourquoi pas nous? Et quelle est donc la personne cible? C'est Pierre Moscovici, puisqu'il est considéré comme un... puisque français, allié d'Emmanuel Macron. Donc, quand on lit la presse italienne, notamment la presse proche, ou quand on regarde les déclarations des personnes au pouvoir, évidemment Moscovici est une cible, mais ils sont en train de chercher un compromis. Et c'est un élément important parce qu'ils vont devoir l'expliquer à leurs électeurs. Après avoir dit qu'ils allaient tout renverser, faire le budget pour le peuple, ils vont devoir expliquer que ce ne sera pas le cas.
Et ça, alors, en plus, avec un style de gouvernement de plus en plus incarné par Salvini, aux dépens d'ailleurs de son allié du mouvement 5 étoiles, ce que vous avez appelé dans un article récent le décisionnisme, oui. Cette capacité de l'homme viril à décider.
Alors, c'est vrai, c'est un mot italien qui veut dire l'esprit de décision, la capacité de décision. Il y a une grande recherche de l'homme fort et dans toutes les enquêtes d'opinion en Italie, on voit que c'est Matteo Salvini qui l'incarne, qui est considéré par les Italiens comme l'homme du futur. Ça renvoie effectivement à la posture qu'a adoptée Matteo Salvini, en particulier sur les questions de l'immigration. Dans sa rhétorique, encore une fois, il est maintenant donc dans une contradiction parce qu'il va devoir, encore une fois, expliquer les compromis qui sont en train d'être passés avec la Commission européenne. Et puis, il y a tout un vieux fond historique qui joue. Et ça, c'est un élément important en Italie. C'est-à-dire qu'évidemment, on pense à Mussolini et il joue là-dessus. Il n'est absolument pas fasciste, le précise.
Mais je voyais qu'il y a un roman qui vient de sortir en Italie d'un certain Antonio Scurati, un roman qui s'intitule M, oui. M pour Mussolini. Et d'après ce que j'ai lu, on ne sait pas s'il s'agit d'une sorte de réhabilitation de Mussolini, ou au contraire d'une leçon d'histoire pour expliquer à quel point le fascisme à l'italienne était abominable.
Alors, je ne l'ai pas lu, ce roman. Mais c'est un signe quand même. Oui, mais alors, je crois qu'il ne faut pas quand même trop forcer la comparaison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens, d'ailleurs plus souvent à l'extérieur de l'Italie qu'en Italie, qui disent « est-ce qu'il n'y a pas un retour du fascisme ?» Non, il n'y a pas de retour du fascisme. Ça, je suis, pour le moment, en tout cas, je suis très clair. D'abord, parce que l'histoire ne se reproduit pas, ce n'est pas le même contexte historique, parce qu'il n'y a pas jusqu'ici, en tout cas...
Non, mais il y a cette rémanence. En fait, il y a des signaux qui ressurgissent, disons.
Alors, il y a l'utilisation par Matteo Salvini de jouer sur l'inconscient collectif des Italiens, le fait que cet été, il était torse nu, ce qui fait immédiatement penser, évidemment, aux photos de Mussolini en train de faire la récolte et la moisson du blé, parce qu'il a joué sur des mots.
Ça fait penser à Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, qui est il ne faut jamais oublier que Matteo Salvini a signé un accord avec son parti et le parti de Poutine de collaboration en 2017. Donc il y a effectivement des liens très forts. Non, mais il joue effectivement avec d'une manière presque subliminale pour dire aux Italiens qui ont une nostalgie du fascisme que bon, il a quelque chose de commun avec le Duce. Il n'y a pas le projet totalitaire. Il n'y a pas le projet du tout État. Au contraire, Matteo Salvini exprime aussi les intérêts des électeurs du Nord de l'Italie, notamment des petites entreprises, qui détestent les gens du mouvement 5 étoiles et qui veulent, eux, le moins d'État possible. Donc voilà, je crois qu'il faut... Il n'y a pas, pour le moment, je suis vraiment très net, parce qu'en France, je vois des choses assez étonnantes sur l'Italie. Non, à chaque fois qu'il y a un homme fort en Italie, Berlusconi, Matteo Salvini, immédiatement, on hurle le retour du fascisme. Je crois que si on prend les lunettes du passé, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, c'est vrai, encore une fois, qu'il y a des groupes d'extrême droite, notamment Casa Pound, qui entre parenthèses était très active la semaine dernière, et encore
parmi
les gilets jaunes. Pour, donc Casa Pound, c'est une organisation vraiment néo-fasciste. Oui, il y a toute cette agitation, il y a des nostalgies, mais le projet de Matteo Salvini est autre, et quitte à vous surprendre, chère Christine, son projet politique, je peux vous le dire, c'est essayer d'être l'homme fort de l'Italie, mais pour essayer de constituer une vaste coalition qui ira des confins de l'extrême droite au centre modéré. Et il ne cesse d'alterner ce type de discours pour occuper une place centrale en Italie. Donc voilà son projet politique, et il n'est pas du tout lié au fascisme. Cela dit, il y a, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, une partie des Italiens qui sont prêts et qui veulent de l'autorité, mais la recherche de l'autorité, la recherche de l'homme fort, ne signifie pas l'autoritarisme et l'acceptation de la dictature.
Et il a évidemment l'allié 5 étoiles qui s'est construit sur un tout autre modèle à partir des réseaux sociaux, puisque Beppe Grillo avait pour associé Casaleggio, cet informaticien dont le fils désormais a pris la relève, avec, si j'ai bien compris, un système propriétaire, comme on dit, que personne ne peut véritablement pénétrer. Ils sont propriétaires de la marque et propriétaires donc de ces algorithmes. Éric Scholl, bonjour, directeur de Courrier International. On a relevé dans le mouvement des Gilets jaunes en France, la première revendication sociale fondée à partir de Facebook. Alors Facebook, quand on regarde les chiffres, 2,2 milliards de gens sont inscrits sur Facebook à l'échelle de la planète, utilisateurs actifs, et 38 millions en France. Et les réseaux sociaux, c'est aussi, on le sait, non seulement cette capacité de se rassembler, mais aussi cette capacité de propager tout et n'importe quoi.
Et pourtant, si vous vous souvenez bien, au départ, on pensait que ça serait des outils de promotion de la démocratie. Et vous rappelez-vous, au moment des printemps arabes, on encensait les réseaux sociaux. C'était en 2011, à l'époque, Chris Taylor, journaliste britannique de Mashable, site d'information dédié aux nouvelles technologies, parlait même de la révolution Facebook, évoquant la démocratie en action. Il n'était pas seul à être aussi optimiste. Philippe Howard, un gourou des technologies de l'information, déclarait à l'époque « Ces réseaux ont répandu un torrent de messages sur la liberté, la démocratie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et ils ont contribué à renforcer les attentes placées dans un soulèvement politique. » Ces deux exemples sont tirés d'un article passionnant publié par Bloomberg à propos des pouvoirs démocratiques en trompe-l'œil des réseaux sociaux, et son auteur, c'est l'éditorialiste russe Leonid Berchitsky, qui connaît bien le sujet puisque lui-même a été témoin des mouvements de protestation en Russie en 2011 à la suite d'élections parlementaires truquées. Et voilà ce qu'il écrit à propos de ces manifestations. Facebook a joué un rôle central dans l'organisation. Devant la stratégie adoptée, réseau de protestation sans représentants formés sur des plateformes américaines, utilisation de mèmes pour alimenter la vindicte populaire, revendications vagues et de plus en plus radicales exprimant une colère sous-jacente, Vladimir Poutine a soupçonné les États-Unis d'orchestrer des mouvements similaires dans différentes régions du monde. Il était aussi naïf que les observateurs qui pensaient que le rôle de Facebook dans ces soulèvements populaires avait un rapport avec la liberté ou la démocratie. La réalité, nous dit Leonid Berchitsky, c'est que les réseaux sociaux servent surtout, je cite, à faire monter la tension autour de certains sujets de mécontentement, et il poursuit, en amplifiant la portée des messages et en créant des bulles d'opinion, ils ont transformé une simple grogne en fureur. Un phénomène qui s'est effectivement une nouvelle fois reproduit avec le mouvement des Gilets jaunes en France, nous dit-il, un mouvement auquel Facebook a servi de caisse de résonance. Or, nous dit-il, l'émergence d'administrateurs de groupes Facebook comme porte-parole d'un mouvement qui se veut populaire n'a rien de démocratique. À la différence d'Emmanuel Macron, poursuit-il, et des parlementaires français, ils ne sont pas élus, souligne-t-il. Alors, une inquiétude que l'on retrouve là, cette semaine, à la une du dernier numéro du magazine américain Harper's, et qui titre « Le trou noir des réseaux sociaux, comment Internet subvertit la démocratie ?» Et l'auteur de ce dossier, Fred Turner, qui est un grand connaisseur de la Silicon Valley, eh bien, il explique comment Internet et les réseaux sociaux, je cite, « nous font entrer dans une nouvelle ère d'autoritarisme.
Et donc ces plateformes seraient en quelque sorte hostiles à toute forme de démocratie ou elles en inventent une autre ?
Alors en fait, si on regarde de plus près, elles peuvent aussi jouer un rôle utile pour les citoyens. Le centre de réflexion Carnegie Europe a publié un article aussi intéressant que concret sur ce qu'ils appellent la démocratie numérique. En Lettonie, par exemple, il y a une plateforme en ligne qui est intitulée Manabals, et qui veut dire en letton « ma voix, mon vote », et qui permet aux citoyens de proposer une loi qui peut ensuite être examinée par le Parlement. Et ça fonctionne, puisque depuis le lancement de cette plateforme, c'était il y a 8 ans, 25 initiatives ont été approuvées par le Parlement letton, et 13 autres sont actuellement en cours de discussion. La Finlande expérimente un dispositif similaire, ce qui fait dire à l'auteur de cet article, Elisa Lironi, que la démocratie numérique peut être à la fois efficace, bon marché et viser un public très large, des avantages, dit-elle, qui ne doivent pas être négligés. Pour autant, précise l'auteur, l'Union européenne a absolument raison de prendre des mesures pour limiter le pouvoir des géants de la technologie. C'est d'ailleurs l'objectif du plan qui a été présenté au début de ce mois de décembre par la Commission européenne pour lutter contre la désinformation et contre les fake news avant effectivement les élections européennes de mai prochain.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Partons en Autriche vous rejoindre, Ulrike Guéraud, bonjour. Vous êtes allemande de nationalité, parfaitement francophone. Vous enseignez aujourd'hui dans une université autrichienne, Danube-Krems, et vous êtes l'une des signataires de ce manifeste pour la démocratisation des institutions européennes, signé en France par Thomas Piketty et bien d'autres. Selon vous, Ulrike, la crise des démocraties libérales que nous analysons depuis le début de cette émission, c'est aussi une crise du système économique et donc du capitalisme, si j'ai bien compris.
Oui, mais on ne peut pas considérer ni un système institutionnel, ni un système économique sans parler des modes de communication. Et si aujourd'hui, c'est ça où il faut relier en fait le mode de communication de l'Internet, et c'est exactement ce que font les populistes, c'est exactement ce que fait Stephen Bannon, et donc il utilise, et c'est là maintenant le rapport, si ici maintenant on est dans un système capitaliste qui en fait produit trop de pauvres ou trop de gens en colère ou trop de gens en rancune, c'est les modalités de l'Internet qui font émerger cette les gilets jaunes, comme Beppe Grillo en Italie, qui donc la larmoyance sur le système et économique, social et démocratique a quand même besoin d'un système cybernique qui aujourd'hui est l'Internet. Et donc oui, c'est une critique du capitaliste qui provient aujourd'hui de la gauche comme de la droite. Si vous lisez les discours de Stephen Bannon, si vous lisez les discours de Varoufakis, en fait c'est kiff-kiff, mais constatez qu'on a laissé un certain libéralisme, capitalisme qu'on a appelé dans les temps jadis Albert Michel, le capitalisme rhénan, ou alors la sociale Marktwirtschaft, c'est absolument clair, parce qu'aujourd'hui on a quand même transformé des mécanismes de concurrence ou alors de l'économie réelle dans une économie des marchés financiers. Maintenant, si on veut parler de l'Europe, c'est est-ce que l'Europe a servi de l'amplificateur ou est-ce que l'Europe nous a protégés contre ces mouvements ?
Alors, pardon, Ulrike, justement, vous avez cité Steve Bannon. Donc, Steve Bannon, qui est donc l'ancien conseiller de Donald Trump, qui a fini par l'écarter de la Maison Blanche, mais Steve Bannon a créé une fondation. Il dit c'était pas temps, il va y avoir des élections européennes, c'est l'occasion ou jamais pour casser l'Union européenne telle qu'elle existe. Est-ce que l'ombre portée de ce que Bannon représente, c'est-à-dire au fond le populiste qui s'appuie sur une certaine notion du peuple tout en étant lui-même fort éloigné, est-ce que c'est là une influence venue directement du trumpisme ?
D'une certaine manière, il va ouvrir un bureau à Bruxelles, il va apparemment engager une dizaine de gens pour faire de la pub contre l'Europe existante, mais là où je voulais en revenir, c'est que on a trop longtemps laissé, en fait, la critique de l'Union européenne dans ses structures actuelles qui ont amplifié une crise sociale aux soi-disant populistes. Donc, c'est-à-dire l'Union européenne en tant que telle n'a pas avoir eu la capacité d'une autocritique. Elle a pu faire des réformes. On va se souvenir du moment même de la grande crise bancaire 2010-11-12. Il y avait un énorme tas de documents sur la table pour avancer l'intégration et budgétaire, économique, politique et tout. Ça s'appelait Genuine Economic and Monetary Union. Tout ça, ça n'a pas été fait. On sait depuis longtemps qu'on vit dans un système qui a beaucoup de manques institutionnels, démocratiques, sociaux et tout cela. C'est pas du tout nouveau, mais on a vraiment loupé le moment d'accommoder le système. Et parce que du coup, l'Union européenne n'a pas su se réparer, s'auto-réparer ou d'intégrer ou d'avancer. En fait, on a laissé une critique légitime par rapport à des lacunes évidentes de système de l'euro-governance à des populistes.
Donc, alors, je vous interromps parce que je voudrais avoir la réaction de Robert Frank. Vous avez étudié l'histoire de ces crises européennes. On a eu l'impression souvent que, précisément, l'Union avance par ses spasmes, en quelque sorte. Est-ce qu'on serait dans un de ces cycles qui permettrait une relance, comme vient de le rappeler Ulrike Gero et les signataires de ce manifeste?
Il faut l'espérer, mais ce n'est pas gagné. Je m'explique. De 1950, depuis la déclaration Schuman jusqu'au début des années 2000, c'est vrai que la construction européenne s'est faite par une succession d'avancées et de crises. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois que l'Europe avançait, ça marchait bien, mais tout d'un coup, ça pouvait susciter des crispations, de peur, et du coup, une crise. Et puis, lorsque la crise venait, on disait, on peut pas arrêter l'aventure, donc il y avait une relance. Effectivement, et finalement, ces crises étaient presque bénéfiques parce qu'elles permettaient des relances, que ce soit celle de 1955 ou d'autres. On peut dire que depuis le début des années 2000, et peut-être après les référendums néerlandais et français de 2005, ces crises s'enlisent et effectivement, la relance ne vient pas aussi vite, et pour les raisons qu'on a dites, la crise est beaucoup plus profonde. Elle est pas seulement une crise de construction européenne, elle est pas seulement une crise politique, il y a une crise sociale profonde et une crise du politique, une crise des représentations. Et pour faire écho à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que dans une certaine mesure, l'Europe ne marche pas sur ses deux jambes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement ce besoin, je dirais, d'économie libérale, d'économie dynamique, un peu libérée, et pourquoi pas faire des réformes de ce côté-là, mais il y a en même temps...
C'est ce qu'Emmanuel Macron
oui,
a
mais il y a en même temps besoin, et ça a été annoncé, un peu pour équilibrer les choses, d'Europe sociale. Rappelez-vous, au moment du référendum de Maastricht, qui a été finalement gagné, Louis l'a emporté, mais à ce moment-là, François Mitterrand disait à son électorat de gauche, oui, c'est vrai, Maastricht reprend tout ce qui est libéral dans les traités précédents, mais il faut avancer, et dans cette avancée de l'Europe, il sera possible, parce qu'elle va avancer politiquement, il sera possible de faire une Europe sociale. Et au fond, cette Europe sociale n'est pas venue. Et si justement en 2005, il y a eu ce vote négatif, il a été essentiellement négatif à cause de l'électorat de gauche qui jusqu'alors votait oui à l'Europe et qui vote non, une sorte de retour du refoulé de ces années 80 où effectivement la politique de gauche a été abandonnée au profit de la politique européenne dans l'espoir que l'Europe deviendrait sociale, et cette Europe n'est pas devenue sociale. Je crois que cet exemple français se généralise un petit peu partout sur le continent où effectivement on se rend compte de ce déclic. Côté, pour paraphraser Churchill, on pourrait dire le capitalisme est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, mais c'est vrai qu'en même temps, s'il n'y a pas ce contrepoids qui est typiquement européen d'ailleurs, qui fait la spécificité de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire cette Europe sociale, cette dose de welfare state, parce que le welfare state, même s'il est en crise, même s'il a été démantibulé, y compris en Grande-Bretagne, il subsiste malgré tout. Margaret Thatcher n'a diminué que de 20% ou 30% le welfare state, mais c'est complètement différent par rapport à l'Amérique.
Et ça reste un ciment commun européen.
Exactement. Et du même coup, dans cette nécessaire réforme de l'Europe, il faut peut-être faire monter le welfare state d'un cran, c'est-à-dire qu'une partie du welfare state soit aussi au niveau européen pour que les gens puissent s'identifier mieux et d'une autre façon à l'Europe.
Jacques Rupnik, il y a dans tout cela, et Ulrike Gero le soulignait avec raison, une dénonciation d'une mondialisation qui pousse de plus en plus, qui favorise le capitalisme financier, avec un écart entre les immensément riches et les classes moyennes. Mais l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, que vous connaissez par cœur, cette mondialisation reste bénéfique encore en ce moment. Donc il y a aussi ce décalage-là qui joue entre l'Est et l'Ouest de l'Europe.
Oui, c'est intéressant parce que ces pays qui, donc, en ce moment, connaissent un regain de nationalisme, de souverainisme, tout ce qu'on veut, mais en même temps, ce sont des pays dont l'économie est très ouverte. Pas seulement sur l'Europe, mais sur le monde. Quand vous avez un pays comme la Hongrie ou la Pologne qui font 80-90% de leur PNB à l'exportation, qui font les trois quarts de leur commerce avec l'Union européenne et qui en même temps font des campagnes électorales comme l'année dernière à Budapest avec des panneaux « Stop Bruxelles », on croit rêver parce que c'est là, il y a une contradiction absolument sociale. Ils ont été les grands bénéficiaires de l'ouverture économique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ne chercheront pas à imiter le Brexit. Pas seulement parce qu'ils tirent des bénéfices des fonds structurels, mais plus généralement parce que leur économie est tellement imbriquée avec l'économie européenne. Donc, ce qui est nouveau, c'est la déconnexion justement entre l'économie et le politique. C'est que maintenant, nous avons cette campagne antilibérale, elle est, je veux dire, déconnectée de cela, et elle veut... Alors, c'est ça la nouveauté dans le discours en Europe centrale. La phrase de Orban, « Nous pensions... » en 89, que l'Europe était notre avenir. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que nous sommes l'avenir de l'Europe. Donc, en quelque sorte, nous avons commencé la vague souverainiste, antilibérale, eurosceptique. Nous avons vu les élections autrichiennes, coalition droite-extrême droite. Nous avons vu les élections italiennes, l'alliance des populistes de droite et de gauche. La Bavière est relativement proche de ce genre de pensée. Et l'affaiblissement simultané de Merkel et aujourd'hui l'effondrement de Macron, il n'y a plus de match à leurs yeux. Je force un peu le trait, bien sûr. Le match n'a pas encore eu lieu, il y a les élections européennes et il peut se passer encore des choses. Mais ils ont le sentiment, donc, leur option, ce n'est pas le Brexit, c'est de modifier de l'intérieur la donne européenne, une nouvelle donne européenne où on peut trouver ça mégalomaniaque, hyper ambitieux, que nous allons être le souffle qui va transformer l'Europe. Mais je crois que c'est ça. Ils voient qu'il y a une lame de fond profonde. Le Brexit et Trump, ils ont vu ça comme une légitimation de ce qui leur arrive. Ils ont salué, de ce point de vue, et le Brexit, rapatrier les pouvoirs, et ils ont salué l'arrivée de Trump. Et donc, voilà, nous avons... Quand Orban salue l'élection de Trump et il dit « la démocratie, la non-démocratie libérale, c'est terminé l'élection de Trump, what a day, what a day, what a day. » Il exulte, il dit « c'est le moment, c'est la justification, c'est la légitimation de ce que nous entreprenons. » Donc ça, c'est le contexte, Brexit et Trump. Et la nouvelle donne européenne, l'effondrement du couple Merkel-Macron, nous ouvre une possibilité qu'on n'avait pas imaginée.
Mais il y a deux autres phénomènes qui se greffent de façon différenciée, me semble-t-il, selon les différents pays européens, mais qui servent parfois de facteurs communs. C'est d'une part le déclin démographique qui frappe en particulier ces pays-là, et bien évidemment l'immigration. Et là, Robert Franck, on retrouve dans les composantes du Brexit le rejet de l'immigration, sinon que ce n'est pas la même immigration. Dans le cas du Brexit, c'est l'immigration venue d'Europe de l'Est. Donc
Oui, justement, là aussi, il y a une différence, point commun et différence par rapport au continent. Le discours sur l'immigration est complètement instrumentalisé par ceux qui ont des accents populistes, mais ce qui est visé, c'est l'immigration des Polonais, des Hongrois, des Européens, et évidemment pas l'immigration traditionnelle des Pakistanais, etc. Parce que les Brexiteurs se veulent ouverts sur le monde et fermés sur l'Europe. Je reviens sur ce qu'a dit aussi Jacques Rupnik. C'est vrai que les Polonais et Hongrois n'ont pas intérêt économiquement à sortir de l'Europe, mais aussi peut-être une différence d'identité entre Polonais et Britanniques. Des deux côtés, on se sent européen. Les Britanniques sont plus européens qu'on le croit. Ils se sentent plus européens qu'on le croit, mais ils se sentent à part. Et effectivement, ils ont d'autres moyens. Il y a le monde. Pour un Polonais, sortir de l'Europe, c'est aller où? Et surtout, l'identité polonaise, il y a le russe à côté. Je veux dire, l'identité polonaise ne peut pas se dissocier historiquement de l'identité de l'identité européenne. Il y a ça, évidemment, qui joue, qui est extrêmement fort. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des contradictions entre tous ces populistes. si l'Europe est très faible et à cause de cette crise, et si les populistes peuvent effectivement avoir des chances de gagner des élections européennes, ils ont aussi leurs faiblesses et leurs divisions. Parce que précisément chacun défend son intérêt national, eh bien ça ne marche pas. Les Britanniques, leur grande erreur, c'est d'avoir cru qu'ils pouvaient compter sur les Polonais et les Hongrois qui avaient salué le Brexit, mais pas du tout. Michel Barnier a pu faire l'unité de l'Europe face aux Brexiteurs et ils sont étonnés. Et les Italiens, si j'ai bien compris, sont étonnés que l'Union Européenne fait face et demande à l'Italie de corriger son budget. Donc c'est pas si simple. Je veux dire, ils ont une force, ces populistes, mais ils ont aussi des faiblesses sur lesquelles peut-être on peut jouer.
Marc Lazare.
Non, c'est tout à fait. D'ailleurs, le gouvernement italien a soutenu la position de Barnier par rapport à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Je veux dire, ils ont absolument pas émis une voix discordante. Je crois qu'on insiste beaucoup sur cette progression des populistes et on a raison parce que on le voit bien dans toutes les élections, mais il faut en montrer aussi les limites et comme dit Robert Franck, les contradictions. On peut prendre deux exemples. Salvini a fait toute une cérémonie avec Orban à Milan au mois d'octobre où ils se sont vus ensemble, ils ont dit qu'ils allaient faire des tas de choses ensemble et ça se heurte immédiatement à des intérêts nationaux contradictoires. On peut prendre plusieurs exemples. Tous ces mouvements ont des gros désaccords sur les questions économiques. Par exemple, Marine Le Pen est pour ce qu'on appelle une politique sociale réservée aux nationaux. C'est absolument pas la position de Matteo Salvini, qui est plus sur des positions libérales en termes économiques. On peut prendre la question des migrants. L'Italie ne cesse de réclamer à l'Union européenne de répartir les migrants. Et ni les Tchèques, ni les Hongrois, ni les Polonais ne veulent en entendre parler. Et on pourrait multiplier comme cela les exemples de leurs contradictions et du fait qu'ils seront incapables de se mettre d'accord. Et le cas le plus emblématique, c'est l'Autriche, puisque l'Autriche a condamné très sévèrement le projet de budget des Italiens, en disant qu'il en était hors de question de l'accepter. Au sein de la Commission européenne, d'ailleurs, d'après les informations qui filtrent, il y a vraiment des commissaires européens, notamment venus des pays nordiques ou des pays d'Europe centrale, qui sont très durs contre l'Italie, qui veulent vraiment... En gros, on en a marre d'héritage. Excusez-moi de l'expression que j'utilise,
oui,
parce qu'elle m'a été rapportée.
Oui,
le Club Med, ça suffit maintenant avec les Italiens. Ils pensent à peu près la même chose de la France maintenant aussi. Mmh. Bon, c'est un élément important. Et le pire, c'est que l'Autriche a proposé à un moment donné de donner des passeports autrichiens aux régions limitrophes de l'Italie et de l'Autriche. Alors là, ça... Oui, le Sud-Tirol, absolument. Donc là, ça a provoqué immédiatement de violentes protestations de Matteo Salvini et de Luigi Di Maio.
On a longtemps pensé qu'il existait un modèle scandinave. Robert Franck, on voit que la Suède... est toujours sans gouvernement depuis les élections du mois de septembre, avec des tensions là aussi liées à l'immigration. Il faut aussi rappeler que la Suède, par rapport à sa propre population, est le pays d'Europe qui a accepté le plus d'immigrants. Est-ce qu'il existe à la fois dans ces pulsions convergentes avec les mêmes drames sociaux, et Ulrike Guerreau rappelait la montée de la pauvreté relative en Europe. Alors évidemment, on a envie de dire, oui, mais dès qu'on passe une frontière en dehors d'Europe, on se dit, comme on a de la chance de vivre sur notre continent. Il n'empêche que le ressenti est celui-là. D'un mot, on approche de la conclusion provisoire de cette émission, l'une des dernières de cette année 2018. Jacques Rupnik, est-ce que il y a matière dans ces convulsions? Et on voit bien les ingrédients qui sont communs, on voit bien aussi ceux qui ont intérêt à empirer encore la situation, qu'il s'agisse de la Russie de M. Poutine ou de M. Bannon des adeptes de M. Trump. Est-ce qu'il y a un ressort qui pourrait redevenir commun ?
L'élection du président français avait suscité cet espoir-là.
Mais il reste élu, et légitimement élu.
Oui, il reste élu, etc. Mais il est très affaibli. Donc cette dynamique-là, l'idée qu'il y a un noyau européen qui va maintenant contrer, qui est l'antidote, provisoirement du moins, très, très affaibli. Il y a néanmoins deux choses qui, je crois, sont des limites à la dérive antidémocratique ou populiste, comme on voudra l'appeler. Une, c'est l'euro. On l'a créé, on peut le critiquer, personne ne veut en sortir.
Ça fait 20 ans.
Et personne n'a envie de faire imploser cela. Et donc, ça c'est une, j'allais dire, c'est une contrainte que tous ont acceptée, personne n'a envie d'en sortir. La crise grecque, de ce point de vue, a été un exercice pédagogique assez intéressant.
Atroce pour les Grecs.
Atroce pour les Grecs, mais vous avez un parti qui s'est construit sur le rejet de la politique, disons, compatible avec l'euro. Et une fois arrivé au pouvoir, il a accepté. Donc, il y a la contrainte de l'euro. Je crois que ça c'est une limite. Et même les populistes découvrent cette limite quand ils arrivent au pouvoir, comme l'a découvert Syriza. Et il y a la deuxième limite, ou le deuxième élément qui pourrait favoriser un sursaut européen, suffit de regarder autour de soi. Enfin, notre voisinage. À l'Est, vous avez Poutine, la déstabilisation de l'Ukraine, l'emploi de la force, annexion de la Crimée, etc., sans parler des incidents récents. Donc vous avez quand même, à l'Est, le retour de la géopolitique. Vous
oui, avez mais pardon, je vous interromps, oui. Vous avez l'homme fort.
Et vous avez l'homme fort
en torse nu qui incarne justement cette capacité de décider.
Eh bien, l'homme fort appelle une réponse forte. Et donc les Européens, confrontés à cela, à la déstabilisation au sud de la Méditerranée, les États qui s'effondrent les uns après les autres, de la Libye jusqu'à la Syrie, la vague migratoire qui va avec, j'allais dire, pas seulement la menace terroriste, on vient d'en faire encore l'expérience en France, mais la vague migratoire. Et à l'Ouest, on n'a plus l'assurance de la garantie américaine qui allait de soi pendant très longtemps. Et donc je pense que à l'Est, au Sud et à l'Ouest, si à ce moment-là, les Européens ne comprennent pas qu'ils ont un destin partagé, qu'ils ont quelque chose qui reconcentre les priorités. Hein. La fameuse expression « il n'y a rien de tel que de savoir que vous serez exécuté demain pour concentrer votre esprit ». Voilà, vieille boutade anglaise. Mais quand on sent les menaces à l'extérieur, moi je ne dis pas que c'est suffisant, mais ouais. La crise de l'euro, ça c'est le noyau interne, et la déstabilisation et les menaces externes, ça c'est la deuxième raison pour les Européens, en quelque sorte, de penser au destin commun qui est le leur.
Robert Franck, vous souscrivez à cette
Oui, tout à fait. Il y a peut-être des éléments de sursaut possibles. Le Brexit est un électrochoc pour les Britanniques, c'en est un aussi pour les Européens. Ça peut être aussi un épouvantail. Hein. Regardez ce qui se passe. Voilà. Donc ça peut resserrer les liens sur le
Mais c'est
sur
pas ça
continent.
Qui va convaincre non, les Gilets non, jaunes non, aujourd'hui, bien sûr, samedi, bien sûr. De baisser les bras.
Voilà, enfin, mais là, on peut se projeter, si vous voulez, sur l'année 2019. De même, si, est-ce que le Brexit va avoir lieu? On n'en sait rien, finalement. Mais s'il a lieu, Peut-être l'Europe pourra-t-elle se réformer plus facilement. Dernier point, et là je suis tout à fait d'accord avec Jacques Rupnik, finalement l'euro est plus solide qu'on ne le croit, personne ne veut en sortir. Cela étant, la politique de l'euro peut changer. Et là, la réponse est allemande. Qu'est-ce qui va se passer après Merkel? Est-ce que les Allemands vont comprendre que ce qui est bon pour l'Allemagne, et ce qui a été bon pour l'Allemagne, hein, cette politique orthodoxe, est-ce qu'elle est forcément bonne pour l'Europe? Et là, c'est une question de solidarité européenne, et il faut que tous les Européens soient solidaires entre eux et qu'ils aient conscience de cette nécessaire solidarité.
Et là, Marc Lazare, c'est là où, évidemment, il faut que Emmanuel Macron retrouve son souffle et retrouve les moyens, les arguments pour convaincre les autres partenaires européens qu'il est lui aussi en mesure de remplir ses promesses.
Il est dans une situation extrêmement difficile, Christine O'Krent. D'abord parce que son projet européen, dès le début, a été contesté par les pays de l'Europe du Nord, par les pays d'Europe centrale et orientale pour différentes raisons, parce qu'il y a eu l'affaiblissement d'Angela Merkel, parce qu'il y a le gouvernement italien actuel, parce que maintenant, en plus, il a cette situation française. Il faut effectivement d'immenses capacités pour rebondir et redevenir crédible, alors que justement, il avait expliqué aux Français et aux Européens qu'il fallait faire ces réformes pour avoir de la crédibilité. Et si il faisait ces réformes et qu'il avait la crédibilité, il pourrait obtenir justement un assouplissement des mesures politiques économique et financière et fiscale même européenne. Et là, je crois qu'il est dans une situation extrêmement difficile. On ne peut que lui souhaiter un bon repos durant les vacances de Noël pour essayer de se ressourcer et de relancer son projet. Mais non, je crois qu'il faut prendre la mesure. Finalement, il n'y a peut-être pas d'hommes providentiels en Europe aujourd'hui. Et certainement même.
Et de femmes non plus.
Et encore une fois, si on se contente dans ces élections européennes d'avoir un affrontement entre ceux ceux dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui critiquent l'Europe et ceux qui la défendent en disant comme elle est belle l'Europe actuelle, on va au désastre. Donc il reste très peu de temps pour repenser justement le projet européen.
Merci à vous tous. Merci à vous Marc Lazare. Vous avez publié avec Ivo Diamanti Peuplecratie, qui va paraître en français en mars prochain chez Gallimard. Merci à Jacques Rupnik. Vous avez dirigé récemment le dossier du CERI sur l'autre printemps 68, 50 ans après. Robert Franck, vous venez de publier Les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit, c'est chez Belin. Merci à Luc Van Middelaar, qui a publié chez Gallimard Quand l'Europe improvise. Et merci à Ulrike Guéraud. À la réalisation ce matin, Vincent Deck, à la technique Kevin Boisseau, à la préparation comme chaque semaine, Meryl Moneghetti, et comme chaque semaine, voici Hervé Gardette. Merci à Eric Scholl, évidemment, Courrier International. Hervé, c'est à vous. Bon week-end à tous.